direct depuis les bancs publics, lieu d'expérimentation culturelle, c'est 10 rue Ricard, dans le 3e arrondissement. La Grenouille participe avec cette émission spéciale à la 3e édition des Rencontres à l'échelle. Une manifestation transdisciplinaire qui, au-delà des notions de performance ou de représentation, met en œuvre croisement, rencontre et hybridation. Une programmation qui a débuté hier et qui va continuer jusqu'au 25 octobre. On va, au cours de cette émission, évoquer quelques-uns des projets présentés au public, en compagnie de Chaïm Adri et Marie-Mé Corbel, Natacha Muslera, Nicolas Gerber et Céline Boucher, Marie Lelardou et Julie Kretschmar, et le quintet Phonétique. Au cours de cette émission, Amy Chauveau, qui a, pour ses rencontres à l'échelle, adopté la position d'observatrice, tant du public que des artistes au travail, interrompra peut-être à l'occasion et quand ça lui chante le cours de cette émission pour y instiller quelques sons de son cru et de son choix. Mais pour commencer, on va peut-être préciser un peu l'esprit et la matière de ces rencontres à l'échelle avec Julie Kretschmar, co-directrice des bancs publics avec Guillaume Kikrez. Julie, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez toi, dans ce
lieu.
Une 3e édition des Rencontres à l'échelle, un ensemble de propositions très ouvert, avec un fil conducteur cette année, qui est intitulé, si on peut dire, étrangeté. Peut-être quelques mots sur cette étrangeté.
Alors, je crois qu'au final, ce n'est pas un fil conducteur. C'est d'ailleurs, même au départ, ce n'était pas un fil conducteur. C'était un mot qu'on a choisi, un mot stimuli, un signe, qui pour nous évoquait sûrement d'abord l'altérité, la question de l'altérité, et un mot qu'on a lancé aux artistes pour construire cette programmation et pour voir aussi comment, à partir de ce stimuli, des artistes réagissaient à ce mot-là.
Donc, on peut l'interpréter comme on veut, c'est l'étrange, l'étrange étranger, cet étranger qu'on
c'est
jette.
C'est l'état d'étrangeté, voilà. Enfin, nous, on l'a pris comme ça, pour ces rencontres-là.
Peut-être c'est la 3e édition de ces rencontres. J'ai eu le plaisir de les suivre au cours des années précédentes. Comment est-ce que cette manifestation évolue? Est-ce que cette année, il y a encore plus d'artistes? Est-ce qu'elle grandit?
Alors, il y a peut-être un peu plus d'artistes. Elle grandit parce qu'on sait de mieux en mieux la faire, je pense. Et que du coup, à Marseille, elle se met un peu à exister. Il y a quelque chose qui continue depuis le départ de cette initiative, c'est qu'on n'a pas eu envie de sortir du cadre habituel de notre façon de travailler. C'est, même si d'un coup ça, c'est un festival, c'est pas l'événementiel, dans le sens que c'est un lieu d'accueil et de résidence, et que pour la plupart des projets, pas tous, mais c'est des projets qui ont été travaillés ici en résidence de création plus ou moins longue. Qu'une partie des artistes, pas tous évidemment, sont des gens avec qui il y a des collaborations déjà un peu anciennes, sous des formes assez diverses. Il y en a qui sont là, donc ils pourront en parler. Et que c'est aussi pour nous l'occasion, et plus que pendant l'année, d'inviter des artistes qui n'habitent pas à Marseille, qui n'ont pour la plupart jamais présenté leur travail, ou très rarement, ou il y a longtemps. Et que c'est parfois difficile à Marseille, et surtout à la Belle de Mai, de pouvoir accueillir longtemps et de présenter des artistes avec des propositions un peu hors format, ailleurs que dans un événement. Voilà.
Les bancs publics, c'est un lieu d'expérimentation culturelle. On a parfois tendance à accoler à ce mot expérimentation un côté très expérimental, un peu garage, etc. Mais ce qui est quand même caractéristique ici, dans ce lieu, dans sa programmation tout au long de l'année et particulièrement à l'occasion de ces rencontres à l'échelle, c'est que ce côté expérimental, il se lie aussi avec beaucoup d'expérience.
Ah. Alors, dans expérimentation, il y a effectivement expérimental. Pour nous, je crois que ce qu'il raconte, ce mot-là, c'est que nous, on cherche, les gens avec qui on travaille, les gens qui travaillent ici cherchent, questionnent, et que peut-être parfois le mot expérimental, s'il est un peu galvaudé ou c'est un peu effrayant, c'est parce que peut-être qu'on lui colle l'idée de quelque chose d'un peu fermé, difficile d'accès. Et je crois que c'est absolument pas l'endroit où on en est, en tout cas au banc public aujourd'hui. Les gens avec qui on travaille, ce qui va être accueilli dans les rencontres à l'échelle, c'est des propositions évidemment qui questionnent, qui cherchent à la fois quand elles se travaillaient secret, mais à la fois quand il y a du public en face, mais qui sont très ouvertes, absolument pas auto-centrées sur leur propre questionnement, mais qui vraiment les mettent en partage. Donc le mot expérimental, moi je le rejette pas, mais il faut pas l'entendre dans son acceptation un peu effrayante ou difficile d'accès.
Un lieu très ouvert, effectivement. La porte est en ce moment grande ouverte et venez nous rejoindre à l'occasion de cette soirée que vous pouvez écouter sur les ondes des 3-8. Mais je vous encourage vraiment à venir nous rejoindre. C'est, je le rappelle, 10 rue Ricard. C'est dans le 3e arrondissement. Julie Kretschmar, peut-être quelques mots sur la manière dont tu as réalisé la programmation de ces rencontres à l'échelle. Est-ce qu'elle est fondée sur un réseau d'artistes que tu as constitué au fil des années? Est-ce que ce réseau s'ouvre à chaque fois vers de nouveaux artistes, de nouvelles propositions?
Les deux. Il y a une partie des artistes avec qui on a déjà travaillé, pour une partie d'ailleurs dès la première édition des Rencontres à l'échelle, et puis ailleurs et autrement que dans le cadre des Rencontres à l'échelle. Donc je ne sais pas si c'est un réseau, mais en tout cas c'est une sorte de communauté de gens, en tout cas qui se parlent, qui ne se comprennent pas toujours, mais qui se parlent beaucoup et qui, à mon avis, même s'ils ont des vocabulaires tous très singuliers, très différents, sont dans un univers sensible, en tout cas qui fait écho. Voilà. Et sinon, évidemment, c'est aussi une invitation lancée à des artistes qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Les rencontres à l'échelle, chaque année, ça fonctionne aussi sur un appel à projet. Voilà, avec tout ce que ça veut dire. Donc on reçoit énormément de dossiers. J'essaie de rencontrer les gens, voilà, qui me semblent...
Le critère de sélection, c'est une rencontre humaine, directe, avec les artistes?
C'est le même, le critère de sélection, c'est le même, enfin, j'aime pas ce mot d'ailleurs, critère de sélection. La façon de rencontrer les gens et de décider de soutenir et d'accompagner des projets, je le fais de la même façon pour les rencontres à l'échelle que pendant l'année. On se met d'accord, on se comprend sur une façon de travailler, sur une façon de mettre des mots sur le travail, sur une façon de se dire comment on convoque un spectateur à ces recherches-là. C'est pas des rencontres avec des projets que moi j'avais déjà vus, c'est pas de la diffusion, donc c'est vraiment un moment de création. Donc je ne choisis pas des objets, j'accompagne des projets et donc des artistes.
Tu accompagnes des projets dans des registres, dans des domaines qui sont très différents et dans toutes les hybridations imaginables de ces registres et de ces domaines. Est-ce qu'on pourrait dire, pour avoir un intitulé un peu global, un peu générique de cet ensemble, que c'est un art du mouvement?
Écoute, si tu veux, moi ça me va
en
très
mouvement.
Bien. Alors si mouvement, ça veut dire qu'on n'est pas assigné dans des frontières très définies, si on a le droit d'avoir dit quelque chose sur un papier et puis finalement de faire autre chose sur un plateau, si on a le droit le mercredi de faire quelque chose et le jeudi de faire autre chose, si le mouvement ça veut dire ça, je pense que ça nous correspond assez bien, c'est assez juste.
Et à propos de mouvement, justement, on va maintenant, si tu veux bien Julie, évoquer une proposition qui est intitulée « Quelle est l'utilité d'une couverture ?». C'est une création qu'on va pouvoir apprécier tout à l'heure, à 19h30. Alors, avis aux auditeurs, encore une fois, venez nous rejoindre. Quelle est l'utilité d'une couverture? C'est une proposition de Raïm Adri, chorégraphe, Benoît Gazal, musicien, et Marie-Mé Corbel, performance critique. Marie-Mé Corbel, bonjour. Vous êtes auteur et journaliste, précisément, pour la revue Mouvement. La transition était toute trouvée.
Oui.
Collaboratrice de la revue Mouvement. Quelle place est-ce que vous donnez à la critique dans cette performance?
Je viens après. D'ailleurs, c'est significatif que vous me demandiez au départ. En principe, c'est juste après et c'est juste pour essayer d'écarter certaines fausses questions sur la réception critique, et c'est aussi pour mettre en question l'acte critique. Hein, voilà. Mais c'est en principe une place seconde et certainement pas une place première. La première place étant donnée à l'art, donc à la pièce de Raïm. Et voilà, ça me semble...
Une manière de redéfinir ce que c'est que la critique, une critique dont on a souvent une assez mauvaise image dans le domaine artistique.
Oui, redéfinir peut-être pas dans le cadre performatif, mais en tout cas de la mettre en acte et en critique, justement, en représentation, pour voir qu'est-ce que ça fait de le faire à cet endroit-là. Et aussi pour interroger la manière dont parfois elle s'exerce de façon, entre guillemets, un peu planquée. C'est-à-dire que c'est très facile de mettre par terre des pièces Mais par contre, si on prend l'audace d'aller dire les choses qu'on dirait autrement dans l'ombre, si on les dit sur un certain endroit, les choses se renversent. D'abord, l'intérêt qu'on a de ce qu'on a à dire est significativement mis en danger. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que cette performance, vous la couvrez, comme on dit en termes journalistiques, et
non.
Pour faire écho à ce terme de couverture qui en est le titre?
Couvrir, c'est-à-dire
Quand on couvre un événement, ça veut dire qu'on le traite, ça veut dire qu'on va en parler, qu'on va écrire dessus.
Non, pas du tout, non. Je crois même que j'ai tenu mon action assez secrète.
Alors, peut-être, Raïm Adri, ce terme de couverture, qu'est-ce qui le recouvre dans cette performance?
Une couverture sociale, en premier. Et c'est, premièrement, il faut qu'on soit couvert socialement. Et puis après, c'est qu'on soit couvert. Ça veut dire qu'on aura chaud. Puis il faut, c'est important, la couverture journalistique. Hein, c'est couverture journalistique. Et quelle est l'utilité d'une couverture journalistique sur un événement? C'est peut-être la grande question qui mène cette pièce depuis son début, puisque c'est une pièce multithème, mais monoforme. Qu'est-ce que ça veut dire une pièce multithème et monoforme? En fait, à chaque fois qu'on a à jouer cette pièce, on se pose la question de quoi on parle. Mais à chaque fois quand on va choisir de quoi on va parler, on va utiliser la même façon de créer. Donc à chaque fois quand on ramène la pièce, on crée dans la même façon, mais on voit des choses très très différentes sur le plateau puisque la thématique est différente. Et donc la question de couverture journalistique, je ramène la couverture journalistique, on choisit des thèmes qui sont enfouis là, dans l'actualité dans laquelle nous vivons. Et quelque part, notre façon de faire, c'est une alternative, clairement alternative, à une couverture journalistique d'un événement.
Dans cette pièce, dans cette performance, j'imagine que vous y interrogez la question de l'identité, peut-être en écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec Julie Kretschmar à propos de cette étrangeté, la question de l'identité sous une forme multiple.
Oui. Enfin, et là précisément, on traite un sujet dans lequel l'individu est, qu'on traite, soumis à des forces dont il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir sa vie, a choisi un moment de sa vie de perdre son identité, de la balancer, de la déchirer, de la brûler, pour pouvoir obtenir un petit bout de terre, de rêve en Europe.
Cette question de l'identité que vous reliez, je crois, volontiers à la question de la mémoire et à celle des territoires, vous l'abordez là, dans cette nouvelle pièce, mais c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé dans votre travail, dans vos travaux précédents, notamment avec une série
obsession.
Qui s'appelait Bribes.
Obsession, oui. Mais ça va passer, hein. Mais ne vous inquiétez pas.
On peut souhaiter que non.
Mais si, mais il y a obsession. Il y a obsession claire parce que... Il y a vraiment cet rapport à la mémoire, dont Bribes, qui a été abordé au début par une forme de mémoire individuelle, chacun avec sa mémoire, petit européen, grand européen que nous sommes. Et puis après, notre questionnement vis-à-vis de la mémoire, puis comment est-ce que le collectif bouffe notre mémoire. Et là, c'était un traitement sur le territoire israélo-palestinien. Et puis sur Front, ensuite, il y avait cette question de... Comment est-ce que la mémoire mythologique forme nous? Comment est-ce que la mythologie nous forme? Et que là, de nouveau, ce rapport à la mémoire et à l'identité sur l'ensemble de quelle est l'utilité d'une couverture, puisqu'à chaque fois, on se posera la question, dans une situation, comment est-ce qu'une personne ne peut pas agir sa vie?
Vous venez d'évoquer à l'instant la question israélo-palestinienne, une question brûlante évidemment, que vous avez abordée dans votre travail d'artiste.
J'ai eu chaud, tout d'un coup ça faisait...
Est-ce que, peut-être en écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette idée de couverture sociale, que c'était finalement la chose la plus importante, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre travail une idée de géopolitique artistique? Enfin, d'introduire la question géopolitique dans la question de l'art, de la pratique de l'art.
Pour moi, l'art est un espace, est dans un espace, est lié à l'espace. L'art n'est pas sans espace. la façon dans laquelle on fait de l'art est conditionnée par l'espace dans lequel il le fait, l'art. Donc, quand on parle géopolitique, forcément, on est conditionné par l'espace et que c'est par défaut, c'est pas forcément parce que je pense à ça, c'est que ça n'existe. Ça existera même si j'y pense pas.
Est-ce que ça signifie que les artistes, eux, parlent d'espace alors que les politiques, eux, parlent de territoire ?
Les politiques parlent de l'argent.
Et en parlant d'argent, ils parlent de territoire, c'est-à-dire de frontières, de territoires qui sont délimités.
Hein ?
Il parle de frontières, de territoires délimités avec des murs.
Le territoire de l'art, et il est un petit peu différent que le territoire politique. Alors si on prend le plan de mon plan politique, je pense que notre territoire est un petit peu différent parce qu'il est défini un petit peu différemment. J'aurais du mal à tracer un plan du monde artistique, mais je pense que ce sera un très très intéressant exercice de style pour un débutant ethnologue. Mais je ne pourrais pas le faire. Mais je pense que ça sera intéressant.
Vous travaillez non pas seul, mais avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Sisyphe Heureux, une compagnie qui intègre des créations plastiques tout autant que chorégraphiques et avec des collaborations assez prestigieuses d'ailleurs dans le domaine plastique. J'ai par exemple vu que vous aviez travaillé avec Rachid Koraïchi.
Oui. Oui, Rachid Koraïchi.
Peut-être raconter en quelques mots.
Avec Rachid Koraïchi, nous avons travaillé sur une pièce qui s'appelle L'absent, et que la question absent était vraiment une question vis-à-vis de l'homme absent, donc ou peut-être masculin absent, ou alors peut-être la question est-ce que l'homme absent, masculin absent, Dieu absent, question, je ne sais pas. Et puis on a travaillé avec Rachid en traçant une ligne entre l'écriture soufie et les écritures bibliques, et qu'à l'intérieur de ces écritures qui nous ont balancé comme ça, vraiment comme un bateau, berceuse, à la fois berceuse maternelle pour chacun, parce qu'il y avait quelque part vraiment chacun de nous où il y avait un rapport vraiment à nos sources maternelles. Je dirais plus que paternel, étrangement. Et puis, ces rencontres, comment est-ce que Rachid, comme moi, et comment est-ce que dans ce ballon, parfois, sur ce petit bateau maternel, ben, on se cogne la tête. Et c'était intéressant. C'était très intéressant. Et que Rachid, il a fait une série d'œuvres qui étaient présentées sur plateau, puis d'autres qui sont présentées, enfin, qui sont en cours, justement, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent. Il y a un livre.
Il y en a quelques-uns.
Il y a un livre qu'on aimerait bien pouvoir éditer et que c'est un livre qui est écrit justement à partir des extraits de textes soufis et des textes bibliques qui se mêlent entre eux et qui crée une forme de long poème d'amour tout illustré par Rachid.
Je crois comprendre que votre travail c'est un travail d'imbrication en fait, de mélange et de mélange intime.
La question, c'est drôle parce que la question, tout à l'heure je parlais de la forme, mais la question de la forme, je la pose pas.
Parce que la question du fond doit se poser d'abord.
Ouais.
Peut-être on va demander à Marie-Mée Corbel de faire un premier exercice critique à l'issue de cette toute petite discussion. Quelques mots, justement, dans une démarche critique sur ces quelques mots qu'on vient d'échanger.
Je les trouve très intéressants. Je trouve que la langue de Raïm est fascinante parce qu'elle passe par plusieurs détours, par évocation, image. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a dit Julie sur le mot expérimental et aussi sur la difficulté, sur la question du mouvement. Parce qu'être dans le mouvement, c'est aussi être dans une certaine forme de réussite. Et c'est pas forcément l'endroit où nous nous situons, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Voilà.
Soyons heureux ce soir, la critique est favorable, hourra, pourvu que ça dure. En tout cas, je rappelle que ce soir, c'est à 19h30 au banc public, 10 rue Ricard. Venez nous rejoindre pour venir voir la proposition de Raïm Adri et Marie-Mée Corbel, qui est intitulée Quelle est l'utilité
d'une couverture ?
Couverture, merci Raïm. Amy Chauveau est avec nous et peut-être Amy, si tu veux bien, je te propose de commencer à nous faire écouter un premier son que tu as préparé. Amy travaille très souvent avec un dictaphone d'un modèle un petit peu ancien et on va entendre ce que la boîte recèle. Sonore proposé par Amy Chauveau. Amy, bonjour, merci de ce petit bout de son dans lequel je crois on entendait ta voix.
Oui, et... effectivement, c'est un hymne. Ça a l'air beaucoup dans le football.
Dans le football ?
J'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est sur un stade, in the middle of the stadium. Et puis il y a un hymne parce que you boy in the middle of the stadium, you boy in the middle of the stadium.
Hey, you boy in the middle, you.
Et je crois qu'on y entendait aussi Mélanie qui était avec cet instrument particulier qui est le térémine. Tu peux intervenir, je te le rappelle, à tout moment dans cette émission, quitte à couper un peu la parole aux intervenants. Tu me fais juste un petit signe, mais tu fais à ta guise. Et je rappelle en tout cas que ce soir, tu présentes ici une performance dans le cadre de ces troisième rencontre à l'échelle. C'est à 20h30. On va maintenant retrouver quelqu'un qui est une complice de longue date de ces bons publics et des rencontres à l'échelle, Natacha Muslera. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Tu présentes pour ces rencontres à l'échelle une performance audiovisuelle qui est intitulée Vicious Singer. On y retrouve un élément récurrent de ton travail sonore, le rapport au corps en même temps que le rapport à l'espace. Mmh. C'est ça ?
Mmh.
Deux choses importantes dans ton travail, un travail avec le corps, avec la bouche, avec la voix.
Oui, avec la voix.
Et dans un espace sonore.
Quoi dire là ? Je suis en train de la fabriquer, donc j'en sors là. Donc moi, la voix, ça fait 18 ans que je travaille la voix, comme quelque chose d'expérimental et comme un processus aussi. Et puis donc ça c'est j'étais chanteuse et je crois que j'essaye d'aller dans d'autres dimensions, d'autres endroits, d'autres voies poétiques, critiques de qu'est-ce que c'est une chanteuse, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est comme phénomène, parce que c'est un phénomène la chanteuse, elle a pas d'équivalent, c'est vraiment très moderne.
Ce Vicious Singer, d'ailleurs, il se situe dans une série qui est intitulée Negative Singer.
Voilà.
Puisque tu présentes une idée qui est celle de la chanteuse positive, Positive Singer, et puis Negative Singer. Est-ce que peut-être tu peux expliciter un peu de quoi il est question ?
Ben pour moi, la Positive Singer, elle transporte des émotions, souvent des messages, des émotions lacrymales, la plupart du temps. Mais ça, c'est des stéréotypes, évidemment. Je sais bien qu'en soi, c'est une réalité toute subjective. Mais il y a quand même ce stéréotype-là de cette chanteuse positive. Et moi, j'essaye de l'emmener dans des endroits négatifs. Aussi bien le moule, c'est-à-dire le moule, qu'est-ce que c'est, la positive et la négative. Et donc de détruire un peu ce qu'elle peut et de détruire et d'en jouer. Donc pour moi aussi, l'expérimentation, il y a beaucoup de jeux. C'est aussi une question de matière, de faire partager la matière en jouant, en prenant Donc en prenant le stéréotype de la chanteuse et puis aller l'emmener ailleurs, la tirailler. Donc celle-ci, c'est une vicieuse. Donc attention. Attention à nous.
Ça veut dire que ce corps sonore, il va se déshonorer un peu ?
Déshonorer, si tu veux. Je dis qu'il va se pervertir.
Qu'est-ce qu'il y a de vicieux ou le vicious dans ce corps
sonore ? Il y a un vice. Donc il y a quelque chose, elle va commencer par être dans une chanson, et puis cette chanson, il y aura une entropie, elle va la dégrader, elle va la pourrir. Mais en y prenant beaucoup de plaisir.
Les positive singers, elles font ça aussi. Hein.
Bien sûr, c'est pour ça que je dis que finalement, la positive et la négative se retrouvent dans un endroit qui est lié à la voix, qui est un endroit de jouissance. C'est pour ça que je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas les positives. Au contraire, je les adore. mais le besoin d'ouvrir d'autres voix critiques, poétiques. Voilà.
Boy in the middle of the stage, and hey, you boy in the boys.
Une couleur assez sensuelle dans cette petite intervention que nous propose Amy Chauveau et qui est bien en phase avec ce que tu évoquais à l'instant. Peut-être pas si vicious que ça, mais en tout cas, c'est vrai que dans ton travail, Natacha, il y a quand même une connotation sexuelle qui est assez présente, souvent. Non ? On dirait pas comme ça, hein, en te voyant, mais...
Je parle de jouissance, de l'ouïr. D'entendre et ça passe, oui, je ne sais pas si c'est sexuel, mais ça passe par, c'est physique, ce n'est pas physiologique. Grande différence. J'aimais beaucoup, peut-être qu'il en faudrait une dans un stade de football, une chanteuse qui crie, qui éructe.
Est-ce qu'il y a des positifs footballeurs, positifs soccer, ça je ne sais pas. On va peut-être revenir à ce travail en série. Tu travailles habituellement sur des séries, tu prends un thème comme ça et tu le déclines de multiples manières. Je crois d'ailleurs qu'à cette Vicious Singer, il y en a une autre qui fait écho, qui est Viscous Singer, chanteuse visqueuse.
Oui, ça je peux la dévoiler parce que je l'ai déjà faite, alors je peux en parler un peu plus. Là, la Viscous Singer, je jouais avec des poulpes. Donc des poulpes, et j'enregistre des poulpes et je les sample, je les échantillonne en direct. Et ce son de poulpe qui est visqueux, gluant, dégueulasse, je joue avec ma voix aussi et j'essaye d'imiter ces sons. Et donc il ne devrait plus y avoir de différence entre un poulpe et une chanteuse visqueuse.
Dans ce travail, tout le monde est mort de rire évidemment. Dans ce travail sur la voix, tu utilises beaucoup les humeurs, la salive, on entend vraiment tous les éléments du corps qui sont dans la bouche et tu travailles vraiment avec ça, pas uniquement avec la voix classique. Quoi. Mm-hmm. Tu voudrais pas donner un peu un petit échantillon, un petit sample ? Qu'est-ce que ça donne ?
La bouche sèche.
Ah ben je te...
Non,
non, bon, d'accord. Peut-être en écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la sexualité qui est présente dans ton travail, puisque après tout c'est plutôt rigolo de décompartimenter les choses, on peut dire que dans quelques temps, tu vas bientôt proposer dans le cadre des instants vidéo une performance qui s'appelle Pute Borgne.
Oui, non pas une performance, ça c'est une installation.
Une installation vidéo.
Vidéo, ouais. Mm-hmm. Mais il y aura aussi une performance qui s'appelle, c'est une des Negative Singer qui s'appelle Difformité. Donc là, ce sera une performance avec sur la cartonnerie, et là, ce sera une chanteuse difforme.
Difforme.
Qui se déforme avec un vidéoprojecteur et avec des anamorphoses, avec des cristaux, et qui, au fur et à mesure du temps, va se déformer. Voilà.
On va peut-être maintenant, à moins qu'Emy ait quelque chose à nous faire entendre, mais c'est pas comme tu veux, Emy, hein. comme tu sens. Le temps de retourner la cassette, on va peut-être partir.
À Londres.
D'accord. Ça veut dire expliquer ça. Ok.
Where is Patrick Bruel dans le stade Vélodrome? Est-ce que Patrick Bruel est dans le stade Vélodrome avec son t-shirt des Clash? Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est déplacé de à la Radio Grenouille pour les bandes publiques l'échelle? Parler de football. Football. Est-ce que 2013 football? Est-ce que c'est d'une forme le territoire?
Moi, j'allais juste faire un appel. En fait, moi, je lance Alger 2013. Donc, si vous êtes tous partants.
Bah, écoute. Nicolas, ça tombe vraiment très bien que tu aies pris le micro. Je te propose de le garder parce qu'on va maintenant parler de la proposition que tu présentes ici pour ces rencontres à l'échelle avec Céline Boucher.
Elle est encore au Canada.
Elle est encore au Canada, mais elle va nous rejoindre. Peut-être, on rappelle aussi, et ça tombe bien que tu interviennes juste après ces quelques mots de Natacha Muslera, que vous avez régulièrement et à plusieurs reprises travaillé ensemble. Je me souviens de la proposition Toc Toc que vous aviez donnée l'an dernier.
En fait, l'histoire avec les bancs publics, elle remonte à 2005. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir une place assez privilégiée, on va dire, ici. Puisque je suis arrivé avec un projet qui est assez, finalement, assez vague, puisqu'il s'appelait Bruit Silence. Mais donc, elle a commencé en 2005. On avait proposé un projet ici avec Toc Toc, avec Natacha. Et ils nous ont accueillis. Et depuis donc, ça fait 3 ans, régulièrement, on vient ici. Donc, je pense par rapport à un accompagnement, je crois qu'il y a quelque chose qui est possible sur un certain temps, c'est-à-dire d'être à la fois dans la recherche et à la fois dans une espèce de j'aime pas le mot fidélité, mais un accompagnement dans le travail. Donc, voilà.
La pièce que tu présentes cette année, tu l'as évoquée, elle s'appelle Silence-Bruit. J'ai failli dire Bruit-Silence, mais dans l'ordre, c'est Silence-Bruit. Ça sonne un peu comme un oxymoron, c'est-à-dire l'alliance de deux termes contraires, contradictoires. Peut-être je voudrais que tu me parles tout d'abord de ta rencontre avec Céline Boucher. Qui est Céline Boucher?
Alors, la rencontre remonte à l'année dernière à Rimouski, au Québec. On était invité avec Toc Toc, donc justement pour faire des performances. J'ai rencontré Céline, qui est une artiste sonore qui est techniquement malentendante, ce qu'on appelle techniquement malentendante, c'est-à-dire qui est sourde, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc on s'est recroisés cette année, et c'est difficile d'en parler comme ça, mais... On a tout de suite engagé une conversation par rapport à la notion de perception du son, donc très intime, liée à elle, sa perception, son travail, sa recherche, puisqu'elle fait des installations, des performances. Elle essaye finalement de transcrire, de traduire sa perception du bruit, puisqu'elle n'entend que des bruits, et à partir de là, de le partager avec un public et de les mettre finalement en face de leur environnement sonore. Enfin, de les questionner aussi sur ce qu'ils entendent, ce qu'ils n'entendent pas. Donc, mais je crois que tout ça, c'est un prétexte. Je pense que moi, d'un côté, j'avais besoin d'une personne en face de moi qui était malentendante, puisque je me considère finalement comme un musicien assez sourd, compositeur, au bout d'un moment. Et elle, finalement, l'inverse, c'est-à-dire... on revient négatif, positif, mais dans le sens qu'elle, finalement, elle peut projeter en moi... quelqu'un qui est techniquement entendant et donc peut-être projeter ses envies aussi là-dedans.
Techniquement ou concrètement, c'est une performance qui se déroule en deux temps, avec un premier temps qui est un temps de marche.
Oui, tout à fait. Donc, pour revenir à ça, donc moi, je lui ai proposé donc, de travailler ensemble, mais par rapport à une idée de base, une forme, on va dire, qui était préétablie, c'est-à-dire une performance de 9h, 17 minutes et 12 secondes. Moi, j'ai trouvé cette temporalité avec d'autres performances, donc j'essaie de continuer ce travail sur cette temporalité et de les séparer en deux temps, c'est-à-dire un temps, on va dire, avec Céline, on va déambuler dans la ville de Marseille, et une dernière partie, donc la dernière heure, on ne sait pas exactement si c'est entre 60 et 70 minutes, où on se retrouve au banc public pour présenter un travail, donc être en représentation. Voilà.
Est-ce que l'idée, c'est d'observer comment est-ce qu'un sens peut en pallier un autre, enfin, ou comment est-ce que le développement d'un sens peut pallier la défaillance d'un autre sens? En l'occurrence, comment la vue peut permettre de...
T'appelles le sens...
Perception.
Signal.
Ouais.
Est-ce qu'un sens, c'est... Est-ce qu'il a un contenu... En fait, est-ce qu'un sens a un contenu déjà, ou est-ce que c'est juste un signal? C'est-à-dire, finalement, juste une information qui n'a pas finalement de contenu. Donc moi je me questionne un peu là-dessus justement. Donc le sens pour moi c'est ouais, ça, je comprends pas vraiment en fait ta question.
Ben, c'était comment, si je crois que si, mais en fait c'est comment est-ce qu'on peut développer dans un rapport corporel, dans un rapport visuel, dans une présence ensemble, dans une marche ensemble, dans un effort réalisé ensemble, comment est-ce que cet effort commun peut permettre de pallier la surdité relative technique, comme tu disais, de Céline. Comment est-ce que la performance d'un sens peut pallier la non-performance d'un autre?
Je sais pas, ouais. C'est à voir.
C'est pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça.
Non, mais je pense que, comme je te dis, je pense que finalement c'est un peu comme on pourrait dire les parallèles movies ou les je sais pas, je crois qu'il y avait Gorin et Godard, des gens comme ça qui travaillent en parallèle. Je crois que moi je l'entends un peu plus de cette manière-là, c'est-à-dire on travaille en parallèle, mais finalement dans l'empreinte et dans la forme, c'est-à-dire négatif et positif. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui agit sur l'autre, l'autre agit sur l'un, tu vois, et comment on arrive, on n'est ni un collectif, ni quelqu'un, on n'a pas envie de se fondre dans quelque chose, mais on a envie réellement de créer un état autonome, enfin autonome, mais chaque personne, chaque singularité, singularité on dit, je sais pas, du travail... de Céline et de mon travail, comment ces choses-là cohabitent, en fait, une cohabitation. Voilà. Silence-bruit, c'est finalement, voilà, c'est un peu ce rapport-là. C'est-à-dire, ils cohabitent, mais pour moi, en fait, moi, je pars dans l'idée qu'il n'y aurait pas de musique sans silence, mais en même temps, quand on entend la musique, il n'y a jamais de silence, donc... Et en même temps, quand tu vas écouter de la musique contemporaine, il n'y a que du silence. Et donc ce silence devient la musique. Et voilà, moi je pense qu'il faut creuser là-dedans, il faut chercher. C'est juste un prétexte, parce que le son n'est qu'un prétexte pour le langage, pour la politique, la religion, la philosophie, toutes ces choses. Parce que là, je vois Edwige, tu vois, c'est hallucinant. Edwige, exploitation documentaire... Et valorisation des informations générales. Alors pour moi, c'est purement sonore, tu vois. Enfin, si tu, parce que c'est, tu as tous les, finalement, les choses que tu retrouves dans notre travail en tant que gens du son. Et moi, je vois ça écrit là-dessus, je suis complètement. Enfin, tu vois, on ne sait pas quoi faire, quoi. Enfin, voilà.
Une performance silence-bruit qui est qualifiée d'ontologique. Alors peut-être est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi est-ce qu'elle est ontologique. Je sais que tu as une grande affection pour la philosophie, alors tu vas peut-être nous expliquer.
Moi c'est très intuitif. Je sais même pas pourquoi.
L'ontologie, alors, peut-être on peut en fait, rappeler non, que c'est un modèle du vivant, de l'ensemble de ce qui est vivant.
C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'idée que deux objets, un silence et un bruit, sont totalement... En fait, on sépare souvent les choses. On dit un bruit, un silence. Et moi, je pense que justement, au niveau ontologique, pour moi, c'est bruit et silence. C'est comme finalement des histoires de combinaisons ou d'équations. Souvent, on a l'habitude de catégoriser des choses. Moi, pour moi, je dis ontologique, c'est je vois comme un complexe, comme une je sais pas, comme un espace ou quelque chose qui est à part entière. Je parlais de matérialisme fanatique et de l'illustration économique, c'est-à-dire que l'authenticité du bruit est d'exister dans ce monde dépourvu de silence. Par pur fanatisme de la matière, l'illustration du silence est une économie du bruit. tu vois. C'est ce rapport toujours entre l'un et l'autre, deux corps, deux extrêmes, parlant d'extrêmes, de fanatisme, de choses. Moi, je pense que voilà, il y a à creuser là-dedans et pour rentrer dans ces choses microscopiques aussi, du langage aussi, parce que finalement, ça touche au langage. Tu vois, même en tant que de musicien, on est finalement très limité par le langage qu'on utilise.
Et est-ce que ce modèle que tu constitues, tu penses que tu pourrais l'exporter dans d'autres domaines? Je pense par exemple au domaine économique ou social. Ou comment est-ce que là, la créativité... est-ce que la créativité pourrait là aussi pallier des défaillances?
Moi, je pense... Moi, j'étais objet d'art en 2006 et j'avais écrit un texte, un avertissement aux gens, chaque société. Là, je suis en train de monter ça en Corée. C'est que chaque chef ou patron de société devrait engager un artiste pour critiquer, mais pas au sens de la critique comme tout à l'heure, mais vraiment en tant qu'artiste, remettre en question une société de consommation, c'est-à-dire quelqu'un qui produit, un producteur ou un exploitant, parce que je pense que c'est vraiment très très important d'aller vers ça. On n'a que à y gagner... Parce qu'en fait, le problème de la France, moi je suis un peu suisse, donc c'est qu'on a souvent, on sépare de nouveau ce qui est privé et ce qui est public. C'est-à-dire qu'en tant que on va dire, de gens qui sont contre un système ou qui essayent de faire bouger un système, souvent on va se dire, on va aller chercher de l'argent dans le public, des subventions, des choses comme ça. Et je pense qu'il faut un peu transgresser ces choses et être beaucoup plus libre. Parce que finalement, pour revenir au mouvement, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans le mouvement et de pouvoir remettre en question la forme. Et donc, voilà, l'argent n'a pas de valeur
par pur fanatisme.
Éthique. Elle n'a qu'une valeur d'échange. Quoi.
Par pur fanatisme de la matière, l'utilisation du silence est une économie de bruit, ça suffit. Ça suffit l'authenticité, ça suffit le bruit, ça suffit d'exister dans ce monde dépourvu de silence, ça suffit.
Je rappelle que Silence 2. Bruit, c'est samedi 25 octobre, c'est à 20h. Et je rappelle à l'occasion, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que Vicious Singer de Natasha Muslera, c'est le vendredi 24 octobre à 22h. On va se retrouver dans quelques instants. Peut-être on laisse se terminer l'intervention d'Amy.
Quelque chose qui est l'habitude de catégoriser un espace ou quelque chose qui est sûr, c'est-à-dire quelqu'un qui produit un producteur.
Glisser sur une autre forme de son, celle qui est apportée par le quintet phonétique, quelques secondes de son, le quintet phonétique qu'on retrouvera tout à l'heure en fin d'émission.
Thank you.
On écoutait un mix de phonétique avec quelques interventions d'Amy Chauveau par-dessus sur la bande. On va maintenant écouter Julie Kretschmar et Marie Lelardoux qui présentent LC Épouse Z. LC Épouse Z, c'est un personnage qui s'invente à partir d'un événement, à partir du réel. On pourrait dire à partir d'un fait divers, Julie.
On pourrait dire à partir de quelqu'un.
Zhang Liu.
Oui, à partir de quelqu'un, donc il s'appelle Liu Chulan Z, voilà, que nous connaissons par le biais d'un fait divers. Voilà. Et ce fait divers, c'est quelque chose que j'imagine tout le monde n'a pas forcément en tête tout le temps, mais quand on en parle, ça revient. C'est une femme qui, en septembre 2007, donc il y a un peu plus d'un an, était chez elle à Belleville, et qui, suite à un contrôle policier, a eu très peur, a ouvert la fenêtre et s'est défenestrée et évidemment est morte. Voilà, c'était un moment visiblement au mois de septembre où il y avait énormément de contrôle à Belleville et notamment auprès de la communauté chinoise, énormément d'arrestations. Donc c'était une période où les gens avaient très peur. Ça n'explique pas ce geste, mais voilà, le contexte est celui-là. Les gens avaient vraiment peur et donc on part de l'accident, du fait d'avoir très très peur et d'ouvrir une fenêtre et pour partir et de tomber.
Est-ce que vous partez toutes les deux de ce fait réel pour développer une forme qu'on pourrait dire de théâtre documentaire?
Tu veux que je réponde ou tu y vas?
Je commence.
Marie Lelardoux.
Je voudrais juste compléter une petite chose et puis on va peut-être raccorder. Je pense qu'on part de cette femme, de cet individu, mais que du coup on traite aussi des anonymes, enfin ça m'importe parce que notre titre c'est pas un hasard quoi, voilà, on a pris des initiales, on traite d'une silhouette, j'ai envie de dire d'une silhouette d'ombre, voilà, des personnes qu'on sent passer à côté mais qui ne se donnent pas à voir. Voilà, j'avais envie de rajouter ça, ce qui amène vers le poétique et du coup le documentaire, ça va. Mais parce que, voilà, du coup je raccorde avec ta question de est-ce que c'est un théâtre documentaire, c'est ça la question?
Oui, oui, c'est une forme dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il y a quelques metteurs en scène qui disent qu'ils font du théâtre documentaire, que ça serait bien de faire ça, tout ça.
Je sais, on va essayer de répondre à deux parce qu'en fait c'est un projet qu'on est en train de mettre en place et du coup il a pas. Enfin, je crois qu'on n'a pas encore la réponse à ça. Enfin, on n'a pas de parti pris de départ. D'un théâtre documentaire ou pas, on est parti de cette femme, voilà. Après, le traitement, de toute façon, je peux te parler que de ça pour le moment, le traitement qu'on en fait, il n'est pas documentaire puisque nous ne sommes pas documentaristes et que je ne sais même pas très bien ce que c'est que le documentaire au théâtre. Parce que pour moi, on est déjà dans un espace de la représentation et que du coup, il y a écriture et que du coup, qu'est-ce que c'est que le documentaire? Mais comme le documentaire au cinéma, enfin, de toute façon, il y a montage, donc il y a écriture, donc il y a réinterprétation, enfin voilà. Donc je ne sais pas exactement. Julie, est-ce que tu veux
ouais, deux mots,
moi, je crois que je sais un peu ce que, en tout cas, ce qu'on appelle théâtre documentaire. Enfin, je vois un peu ce qui peut se faire là-dedans. Je crois que, alors là, pour le coup, pas du tout pour s'en défausser, mais on n'est pas du tout là-dedans. D'abord parce qu'on vient pas du tout de là. Enfin, et on n'y va pas non plus d'ailleurs. Je crois que c'est pas parce que on part du réel. Partir, ça veut dire, on s'est emparé de ce signe-là. Après, je ne sais pas si on part du réel. Et disons qu'on y revient, c'est-à-dire qu'on joue avec ce signe-là. C'est-à-dire que quand on travaille toutes les deux avec Marie, on travaille à inventer, à écrire, à, voilà. Je ne crois pas qu'on transforme le réel. Par contre, le réel nous revient. C'est-à-dire que quand on réfléchit, quand on avance, on sait qu'on a ce réel. Voilà. Et ce réel, c'est cette femme, c'est cet accident, c'est ce fait divers, c'est le traitement journalistique qui a couvert cet événement et qui nous l'a fait connaître. On n'imagine absolument pas documenter qui que ce soit, en l'occurrence les spectateurs, puisqu'il s'agit d'un spectacle. On ne se documente pas nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cherché à savoir qui était cette femme, quel était le contexte, et cherché autour. Là, il se trouve que c'est quelqu'un qui vient de Chine, c'est une Chinoise, c'est une clandestine. Quand Marie, elle parlait tout à l'heure d'anonyme, une des figures de l'anonyme en France en 2008, c'est un étranger clandestin. Voilà, c'est une des figures et nous, je pense qu'on fait un peu de la poésie à partir de ça.
Je veux bien.
Juste deux mots, Marie, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, donc il va falloir aller un petit peu vite, pardon.
Il faut que ce soit les mots essentiels, alors, oui. Du coup, c'est plus difficile, ça. Oui. Non, c'était juste dire que, je sais pas, alors, c'est compliqué.
On pourrait peut-être parler de la question de l'identité, parce que c'est une question qu'on a abordée au début de cette discussion, de ce plateau. Et là, elle est particulièrement traitée de manière étonnante.
Ce que j'avais envie de dire pour compléter le propos de Julie, c'est juste de dire que j'ai l'impression qu'en tout cas, nous, au cours du travail, c'est ma sensation, on a rencontré quelqu'un, voilà, qui n'est pas celle qui existait, mais on va vers quelqu'un. Et je me suis dit ça aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va proposer aux gens d'aller à la rencontre d'une personne, en fait. Voilà.
C'est aussi la question de l'identité, c'est aussi la question du double, en l'occurrence, puisque cette personne... on n'ose pas dire héroïne de la pièce, enfin en tout cas ce personnage central est interprété par vous deux. Comment est-ce que vous répartissez les rôles et le travail?
On est tous multiples et en plus on est tous multiples à différentes époques de nos vies. Donc voilà, là on est deux. Des fois on s'est dit que si on avait été 15, on aurait fait la même chose à 15. Voilà. Donc c'est pas que le double, c'est le multiple en fait, je pense.
Oui, le multiple dans un rapport à la spatialité. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui est juste important de préciser, c'est qu'on part, en tout cas pour le travail qui est en train de se finir, pour ce coup-ci, on part du principe que cet accident a déjà eu lieu, qu'on le connaît tous, enfin voilà. Et donc on remonte, on tisse à rebours à partir de l'accident. Et à partir de ce moment-là, sont convoquées des temporalités très différentes. L'immédiateté, juste avant, le présent du plateau, une espèce de mémoire comme ça. Et c'est comme ça qu'on se partage, on va dire, qu'on se partage cette personne-là. C'est-à-dire qu'on l'inscrit, c'est peut-être pas très net et très signifié, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille, à se répartir des temps, des moments, voilà, de ce personnage qui s'invente.
Et on le rappelle, ça n'est qu'une première étape de travail. Cette pièce va, LC+Z, va ensuite connaître un parcours et être développée, peut-être dans d'autres formes encore. En attendant, elle est présentée sous cette première forme vendredi 24 à 20h30 dans le
jeudi
cadre.
Jeudi 23 aussi.
Jeudi 23 et vendredi 24 à 20h30. Quelques mots peut-être pour conclure cette émission avec Benjamin Chaval du Quintet Phonétique. Salut Benjamin.
Bonsoir.
Peut-être quelques mots sur le travail que tu viens présenter pour ces rencontres à l'échelle autour du son des mots, un travail à partir du dictionnaire. C'est assez étonnant, ça, un travail musical à partir du dictionnaire.
Oui, on prend des définitions de dictionnaire. Enfin, après, ça reste un prétexte quand même. On fait de la musique autour, on les met en musique, on fait de l'improvisation. Il y a les deux, il y a du travail écrit et de l'improvisation.
Musicalement, c'est une forme qui ressemble à du jazz contemporain, on peut dire ça ? New jazz, jazz rock, quelque chose comme ça.
Ouais, si vous voulez, oui. Après, il y a... Enfin, comme je viens de le dire, c'est... Enfin, c'est compliqué.
Moi, je veux rien. Hein.
C'est compliqué toujours de donner des styles et tout, mais... Il y a beaucoup d'écriture, il y a une énergie rock de temps en temps. Après, on fait des agglomérats de notes, on utilise de l'électrique aussi, Il y a de la voix, il y a de la clarinette basse, de la clarinette, du vibraphone. Après, on fait des choses avec tout ça.
Il y a des musiciens, en tout cas de talent, qui t'accompagnent. Il y a Tom Pablo Garel, au vibraphone. Il y a Yann Lecolaire au sax, et je crois que c'est lui qui compose.
Voilà, donc toutes les parties écrites sont composées par Yann Lecolaire. Et c'est de lui qui devient l'idée d'utiliser des mots de dictionnaire comme prétexte et de les mettre en musique.
Et puis il y a un cinquième élément qui est venu vous rejoindre il n'y a pas longtemps, c'est Émilie Lesbros.
Émilie Lesbros, donc avant on était en quartet, on faisait de la musique comme ça, et après on s'est dit qu'on avait besoin peut-être d'utiliser le texte, parce qu'on a toujours eu du mal avec le texte, enfin moi je sais que j'ai toujours eu du mal avec le texte, surtout dans la musique, dans les chansons, ça me paraît assez chiant, en fait, pour dire. Parce que c'est super concret, et moi, je préfère quand même faire de la musique, du son, qui est quand même quelque chose de plus abstrait, et qui appelle d'autres émotions. Donc du coup, par contradiction, on a pris quelque chose de purement informatif, purement sémantique, qui est une définition de dictionnaire. Voilà, donc du coup, au moins, on a... Enfin, je sais pas, ça reste un prétexte, mais...
En tout cas, un premier album qui en est sorti, c'était en 2006, je crois. Et juste en deux mots, pour conclure, il y a d'autres choses qui sont en cours de travail en ce moment.
On va, oui, avec le quintet, justement, avec Émilie, on va enregistrer un album fin janvier. Donc on n'a pas encore de label, mais on va l'enregistrer et puis on va démarcher, on va trouver.
On va écouter quelques notes de son pour terminer cette émission, dans laquelle on n'a évidemment pas eu le temps d'évoquer tous les projets qui sont proposés, tous les spectacles et les performances de ces troisièmes rencontres à l'échelle. J'aurais juste cité « Nous sommes de toute manière toujours déjà trop vieux » de Nicolas Ferrier sur une idée de Guillaume Kikrez et puis bien d'autres encore. Toute la programmation est détaillée sur le site www.lesrencontresalechelle.com. La manifestation se poursuit jusqu'au 25 octobre et ce soir, venez nous rejoindre au banc public, c'est 10 rue Ricard à la Belle de Mai. À 19h30, quelle est l'utilité d'une couverture dont nous allons parler tout à l'heure. À 20h30, une lecture activée d'Amy Chauveau, dont on a entendu à plusieurs reprises dans cette émission des interventions sonores. Et puis à 21h30, essai de rêve avec chien, avec la compagnie 21-29-7. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette émission spéciale en direct des bancs publics, une émission qui était réalisée par Tony Regnault. Restez à l'écoute de la grenouille dans quelques instants, c'est sur le fil. Et on se quitte donc avec quelques notes du quintet phonétique. Thank you.